Yep, all ready.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Encore Heureux. Émile Cioran est un philosophe et un écrivain roumain né en 1911 en Transylvanie. C'est l'expert du désespoir. Son enfance est pourtant très heureuse. Le petit Émile galope dans les collines. Il écoute les bergers dont les histoires proviennent de la nuit des temps. Il est au paradis. Mais ce bonheur prend fin brutalement lorsqu'il a 10 ans. Son père, un prêtre orthodoxe, le conduit au lycée de Sibiu, la grande ville voisine, où se côtoient roumains, hongrois et allemands. 7 ans plus tard, à 17 ans, Cioran part étudier la philosophie à Bucarest. La rupture qui va déterminer toute son existence date de cette époque. Le sommeil le fuit. Il ne dort plus, ou presque plus, à tel point qu'il pense au suicide. Il préférera suivre fort heureusement le conseil de Nietzsche et transformer ses insomnies en un formidable moyen de connaissance. On apprend plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil, dit-il. Étudiant brillant, Cioran écrit son premier livre à l'âge de 22 ans. Celui-ci paraît en 1934. Le titre révèle déjà le programme de toute sa vie. « Sur les cimes du désespoir ». Il est très mal reçu par la critique. 3 ans plus tard, Cioran quitte la Roumanie grâce à une bourse d'études et s'installe définitivement en France. Il décide alors, pour rompre avec son passé, d'abandonner sa langue maternelle et de ne plus écrire qu'en français, ce qui va lui demander des efforts considérables. Cioran est d'une exigence folle. Il travaille la langue comme un forcené, rêve d'un monde dans lequel on mourrait pour une virgule. Il en résulte une écriture classique, ciselée, voire lyrique, d'une élégance glaciale, impeccable autant qu'implacable. Le style, si je m'y suis tant intéressé, écrit-il, c'est que j'y ai vu un défi au néant. À Paris, Cioran mène une vie studieuse, solitaire, nocturne. En 47, Gallimard accepte la première mouture de son précis de décomposition. Il sera publié 2 ans plus tard, après plusieurs versions. Les critiques sont excellentes. Mais le public ne suit pas. Et cette situation va se prolonger pendant près de 30 ans. Il faut dire que Cioran est aux antipodes de Jean-Paul Sartre, très à la mode, et qu'il éprouve une haine tenace envers le communisme. Les nouveaux maîtres roumains ont emprisonné son frère et certains de ses amis, et ses livres sont interdits de l'autre côté du rideau de fer. Cependant, il surmonte les humiliations, les échecs, les volumes pilonnés, grâce à ses amis d'abord, qui se nomment Ionesco, Beckett ou Michaud. Ses lecteurs ensuite, rares mais généralement fanatiques. « Les gens qui s'intéressent à moi ont forcément quelque chose de fêlé », dit-il. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. La fêlure de Cioran, sa souffrance intime, c'est d'abord son insomnie. C'est elle qui va le conduire à porter un regard si particulier et si désespéré sur la condition humaine. Ce regard noir et lucide qui est sa signature et qui éclate dans les titres de ses œuvres. Précis de décomposition, syllogisme de l'amertume, de l'inconvénient d'être né ou la tentation d'exister. La nuit, Cioran veille. Cioran déambule. Il se promène dans la ville parmi les tarés, les ratés, les poètes et les putes.
Le grand drame de ma vie, n'est-ce pas, c'est, qui a duré plusieurs années, et qui m'a marqué. Alors, pour le reste, et tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai élaboré, toutes mes divagations, trouvent leur origine dans ce drame. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. C'est pas du tout d'être en prison, tu vois, tout ça, ça me semble rien à côté de ce drame qui était le mien, n'est-ce pas, qui a duré très longtemps. Pour moi, c'est les nuits de Sibiu, par exemple, c'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Je sortais vers minuit, vers 1h, je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. dans une ville, c'est le silence total, la province, etc. Et pendant des heures, je me promenais dans les rues, et comme une sorte de fantôme. Et tout ce que j'ai pensé, tout a été élaboré, si vous voulez, pendant ces nuits. Seulement, j'ai compris une chose, c'est que c'est les nuits blanches qui sont d'une importance capitale. Parce que, regardez, la vie était simple. Les gens passent la journée, le travail, sont fatigués. Ensuite, ils se couchent, ils se réveillent, et ils commencent une autre journée. Et l'extraordinaire phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour l'insomniaque, il est lucide. Au milieu de la nuit, à n'importe quel moment, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est le même processus, c'est une sorte de temps interminable. C'est un autre monde, un autre temps, puisqu'il n'y a pas la vie supportable à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi on dort? On dort pour, non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Alors, à 8h du matin, vous êtes dans le même état qu'à 8h du soir, n'est-ce pas, la veille, et toute la perspective sur les choses change nécessairement.
À Paris, Suran vit dans le quartier latin, celui de la Sorbonne. Il y résidera jusqu'à sa mort, retranché dans de minuscules chambres d'hôtel, sa tour d'ivoire. Il reste pauvre, décidé à ne plus jamais travailler autrement que la plume à la main. Alors il se promène simplement au jardin du Luxembourg. Il prend ses repas au restaurant universitaire. À 40 ans, il ne pourra plus y manger, ayant dépassé la limite d'âge. On lui retire sa carte d'étudiant. Une exclusion douloureuse pour lui. Mais Suran ne s'apitoie jamais sur l'aspect sordide de sa condition. Il la décrit simplement comme une sorte de cheminement ou de combat dans son existence, comme un état d'esprit qui le maintient en vie. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de comprendre ou de savoir à la manière d'un professeur, mais surtout de sentir, de ressentir les aléas de l'existence humaine. Dans la solitude, le dénuement matériel et ce retrait des divertissements modernes, s'établit une démarche spirituelle, un ascétisme comparable au bouddhisme dont il se sent très proche. Suran refuse les prix littéraires, comme en 1988, le Grand Prix Paul Morand, décerné par l'Académie française. Il les refuse tous, à l'exception du prix Rivarol, en 1949. Il dira alors « Je n'avais même plus de quoi manger et payer le loyer. Sans Rivarol, je serais devenu un vagabond. Or, mendier est un métier dont j'ignore les ficelles. » Plus tard, quand la reconnaissance viendra, qu'il sera devenu quasiment une légende, il écrira « J'ai connu toutes les déchéances, même le succès. » Définitivement, la pensée de Suran oublie de s'alimenter à la mièvrerie. Toute son œuvre tend vers la recherche, lucide et désespérée, du sens de la vie et de ce qui caractérise l'humanité. Suran brode inlassablement sur les thèmes qui le hantent. Le vertige du temps, la mort, le mysticisme chrétien, l'essoufflement de la civilisation occidentale, Bouddha, Shakespeare, Bach. Son essai préféré demeure « De l'inconvénient d'être né ». « J'adhère à chaque mot de ce livre, dit-il, qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page et qu'il n'est pas nécessaire de lire en entier. » Son pessimisme est total, mais aussi plein d'humour, un humour décapant, assassin. Suran condamne l'homme à errer sans raison dans un univers sans Dieu.
Au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître.
Expert en cafard, Suran écrit « Plus on vit, moins il semble utile d'avoir vécu ». Mais ce portrait de solitaire désespéré ne correspond pas entièrement à sa réalité d'homme. C'est là plutôt le mythe, Suran. Celui du personnage de ses livres. Car il y a dans la vie de l'écrivain une part heureuse, épanouie, résolument optimiste. Sa vie amoureuse, pendant 50 ans, avec Simone Bouée, professeur d'anglais. Simone dit de son compagnon qu'il a un caractère épouvantable dans la vie de tous les jours, mais qu'il est aussi très gai, très généreux et doté d'un grand sens de l'humour. Et puis Sioran aime marcher et faire du vélo. Avec Simone, ils font l'Alsace à bicyclette, une partie de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre. Il est littéralement increvable. Cette part heureuse, il la gardera secrète, car le bonheur n'est pas fait pour les livres. Alors, que le désespoir, si ? Le désespoir, qu'en faire ? Que lui opposer ? Quel remède ? La musique ? Certainement. Sioran refuse de parler aux gens qui n'aiment pas la musique. Pour lui, c'est comme s'ils étaient dépourvus de vie intérieure, sans intérêt. Dans les syllogismes de l'amertume, il écrit « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. » Et il ajoute « Sans Bach, Dieu ne serait qu'un type de troisième ordre. » La musique, l'écriture bien sûr, et le rire, rire de tout, même du pire, sans oublier d'aller se promener, en particulier dans un cimetière.
Je vois des gens, des amis, n'importe qui passent par des moments de détresse, de désespoir, et comme ça. Je n'ai qu'un conseil, allez 20 minutes dans le cimetière, vous allez voir que votre chagrin sera non pas éteint, mais presque dépassé. C'est beaucoup mieux que d'aller voir un médecin, ou tout comme ça, c'est pas un médicament qui peut remédier à ça. C'est une leçon de sagesse, presque automatique. J'ai toujours pratiqué des méthodes pareilles, ça ne fait pas très sérieux, mais c'est relativement efficace. Et c'est vrai, moi je suis assez compatissant, c'est curieux, mais en fait c'est comme ça. J'étais sensible au désespoir des gens. Et j'ai toujours aidé les gens, c'est vraiment beaucoup plus qu'on ne peut penser. Parce que, au fond, quelqu'un qui est dans le désespoir, qui n'est pas habitué au désespoir, et d'un coup il est mis dans une position extrême, qu'il ne comprend pas, et qu'il ne peut pas expliquer, etc. Et justement, il ne faut pas dire il faut penser quoi à Dieu, il faut se dire non, il faut changer de perspective complètement. Et surtout, la seule façon de supporter la vie, c'est d'avoir la conscience du néant. Autrement, la vie n'est pas supportable. Mais si vous avez la conscience du néant, tout ce qui vous arrive garde ses proportions normales. Ce n'est pas la vision démente qui existe dans les espoirs, n'est-ce pas, d'exagérer.
À la moindre contrariété, et à plus forte raison au moindre chagrin, il faut se précipiter au cimetière le plus proche, dispensateur soudain d'un calme qu'on chercherait vainement ailleurs, un remède miracle pour une fois. L'œuvre de Sioran est principalement constituée d'aphorismes, des fragments trempés dans l'acide et dans l'humour, doublement décapants et jubilatoires. En voici quelques-uns. Ce que je sais à 60, je le savais aussi bien à 20. 40 ans d'un long, d'un superflu travail de vérification. Vivre, c'est perdre du terrain. Le vrai contact entre les êtres ne s'établit que par la présence muette, par l'apparente non-communication, par l'échange mystérieux et sans parole qui ressemble à la prière intérieure. Que tout soit dépourvu de consistance, de fondement, de justification, j'en suis d'ordinaire si assurée que celui qui oserait me contredire, fût-il l'homme que j'estime le plus, m'apparaîtrait comme un charlatan ou un abruti. L'amitié est une source inépuisable de mécontentement et de rage dont il serait déraisonnable de vouloir se passer. Ces enfants dont je n'ai pas voulu, s'ils savaient le bonheur qu'ils me doivent. Ce matin, après avoir entendu un astronome parler de milliards de soleils, j'ai renoncé à faire ma toilette. À quoi bon se laver encore ? Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter. Il n'y a qu'un remède au désespoir, c'est la prière. La prière qui peut tout, qui peut même créer Dieu. Pourquoi nous retirer et abandonner la partie quand il nous reste tant d'êtres à décevoir? Nous ne devrions déranger nos amis que pour notre enterrement, et encore. En vieillissant, on apprend à troquer ses terreurs contre des ricanements. Si l'on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur le champ. Depuis 2000 ans, Jésus se venge sur nous de n'être pas mort sur un canapé. Avoir commis tous les crimes, hormis celui d'être père. Nul être soucieux de son équilibre ne devrait dépasser un certain degré de lucidité et d'analyse. Ma mission est de tuer le temps, et la sienne, de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins. Ne pas naître est sans contredit la meilleure formule qui soit. Elle n'est malheureusement à la portée de personne. Sioran meurt à Paris le 21 juin 1995, victime de la maladie d'Alzheimer. Un comble pour cet homme qui, toute sa vie, a été tourmenté par une conscience aiguë du néant. En 1987, il écrit dans son dernier livre « Aveux et anathèmes » cette phrase à la fois totalement désillusionnée et à l'humour ravageur qui lui ressemble tant. « Après tout, je n'ai pas perdu mon temps. Moi aussi, je me suis trémoussé, comme tout un chacun. » Dans cet univers aberrant. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le 11 avril prochain. L'émission sera consacrée à Marguerite Duras. N'oubliez pas les podcasts disponibles à tout moment sur notre site. Un grand merci à Pauline qui était à la technique. À très bientôt sur Radio B.